Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc conclure le cycle sur la désobéissance par une question qui est une question que je trouve redoutable, en tout cas, qui peut mettre mal à l'aise, et qui est la question de la violence. Alors ici, l'approche qui se veut philosophique est la suivante. Elle exige que l'on sorte des jugements moraux. Hein, parce que d'emblée, évidemment, quand on parle de violence, ben, comment voulez-vous échapper à un jugement moral en disant ben, « la violence, non, ça c'est trop grave, ça on ne peut pas, enfin voilà, c'est inacceptable ». Et du coup, ça ferme évidemment la réflexion. Donc on va sortir ici le temps de notre réflexion. Hein, on va sortir de ce réflexe qui consiste à condamner, à juger, pour essayer de comprendre. Et comprendre n'empêche pas que l'on juge par la suite, mais on ne peut pas, à mon sens, comprendre quand on est d'emblée donc dans le jugement moral. Donc, comprendre, ça veut dire quoi ? C'est comment peut-on comprendre que des individus organisent sciemment, volontairement et justifient par conséquent eh bien, l'utilisation de la violence pour défendre une cause qu'ils estiment juste. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire ici. Et on va essayer de voir, donc, puisqu'on est dans le cadre d'une réflexion philosophique, comment donc effectivement la philosophie a pu soutenir ce type de propos, offrir des arguments pour justifier, légitimer la violence. Alors il faut commencer par un premier point qui est une mise en garde, si on veut, enfin, ou en tout cas qui est un a priori ici qu'il faut interroger. C'est que dans la littérature, si vous lisez sur le sujet de la désobéissance, vous verrez que le discours conventionnel, habituel, consiste à identifier la désobéissance civile, qui a été notre objet, qui est toujours notre objet de réflexion, notre point de départ, donc on l'identifie à la non-violence. Donc normalement, la question qu'on aborde ici n'est pas pertinente pour notre propos, elle est évacuée, et on pourrait donc nous reprocher assez facilement ben, qu'on sort du sujet, qu'ici on va au-delà, donc c'est pas que c'est pas intéressant de réfléchir sur la violence, mais enfin ce n'est plus tout à fait une question en lien avec notre thème. Alors, donc par exemple vous avez comme auteur qui, enfin auteur illustre qui défend cette thèse, mais parmi plein d'autres, ben, vous avez Jürgen Habermas par exemple, vous avez Rawls, hein, aussi, qui a défendu cette thèse quand il parlait de la désobéissance civile. Vous avez aussi Hannah Arendt, par exemple. Mais Hannah Arendt, donc, quand elle a écrit sur la désobéissance civile, et lorsqu'elle médite ces questions, elle a quand même une hésitation. Et c'est cette hésitation qu'on doit pouvoir entendre. Voici ce qu'elle dit, je vous lis, c'est une phrase. Elle dit « Cette façon de distinguer comme on le fait donc habituellement, hein. Cette façon de distinguer entre celui qui fait acte de désobéissance civile et le révolutionnaire, alors petite parenthèse, donc le révolutionnaire, c'est-à-dire que, qui lui recourt à la violence, donc c'est cette façon de distinguer donc, la désobéissance civile qui est non violente et le révolutionnaire qui lui est violent évidemment. Donc la citation continue, « Si plausible à première vue, est en fin de compte beaucoup plus difficile à maintenir. » Donc voici ce que dit Hannah Arendt, alors qu'elle reprend donc la thèse en disant « Ben oui, c'est vrai que désobéissance civile, non-violence, et révolution, ben là c'est donc la violence, bien évidemment. » Donc elle a une hésitation. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre son hésitation pour la raison suivante, à mon sens, c'est que lorsqu'on voit ce que font les partisans de la désobéissance civile, ben, c'est vrai qu'ils ne tuent pas, c'est vrai qu'ils ne s'en prennent pas aux forces de l'ordre, ou je ne sais quoi, mais enfin, il n'y a pas de violence caractérisée, bien sûr. Mais néanmoins, les actions, aussi symboliques soient-elles, les actions qu'ils entreprennent, eh bien, sont des actions qui comportent déjà un certain niveau de violence. Alors donc, on dira simplement un niveau de violence qui, évidemment, est beaucoup plus bas que la violence caractérisée donc lorsqu'on s'en prend à un autre être humain, donc quand on s'en prend physiquement à un autre être humain, c'est une évidence. Mais n'empêche que c'est déjà de la violence. Et donc ici, on va opérer, je vais vous donner des exemples tout de suite, on va opérer donc un glissement de regard où on va sortir de l'opposition convenue violence-non-violence pour rentrer dans une autre logique, dans une autre manière d'apprécier les choses, qui est plutôt une escalade dans la violence. Alors, je vais vous donner des exemples tout de suite. Ça relève de la désobéissance civile. Si, par exemple, on va bloquer un rond-point, on va bloquer une frontière, on va bloquer les chemins de fer, éventuellement, enfin bon, que sais-je. Les personnes qui vont entreprendre ces actions prendront garde de ne toucher personne, de ne même pas toucher les voitures ni les trains, enfin voilà, mais n'empêche que l'on bloque la libre circulation, on bloque, donc on empêche des personnes de pouvoir faire ce qu'elles souhaitent faire, elles n'ont rien demandé à personne, mais n'empêche que, peu importe, on s'en fout, que ce soit urgent, pas urgent, qu'elles aient une bonne raison ou pas une bonne raison, on les empêche pendant un certain temps de circuler. Eh bien, n'est-il pas juste que l'on puisse dire ici qu'il y a effectivement une forme de violence, alors très atténuée, parce qu'une fois encore, on ne touche personne, d'accord, mais n'empêche, c'est exercé à l'encontre d'individus qui n'ont rien demandé, c'est exercé une certaine forme de violence, en les privant, en les dépossédant, quoi qu'ils demandent, quoi qu'ils réclament, en les dépossédant d'un droit qu'ils ont de circuler librement. Ben, d'un certain point de vue, moi, il me semble que l'on peut effectivement voir ça comme un acte de violence, donc qui est au plus bas dans l'échelle, dans la gradation possible des actes de violence, mais n'empêche, c'est bien déjà un acte de violence. Maintenant, deuxième exemple que je vous donne, et donc on va monter dans les tours, hein, on va aller en crescendo, occuper d'autorité une propriété privée, par exemple Greenpeace qui occupe le terrain d'une centrale nucléaire pour monter sur les tours de refroidissement et mettre un calicot, un slogan, enfin peu importe, ou bien donc toutes ces personnes qui occupent un terrain privé pour s'opposer à la suppression d'une forêt ou pour s'opposer à l'installation d'un aéroport, comme il y a eu en France, hein, etc. etc. Donc ces gens qui s'emparent d'une propriété privée, d'un terrain privé, qui l'habite, qui le détruisent éventuellement par leur en s'installant, en vivant là, enfin, qui le réquisitionnent, quoi, hein, contre la volonté des propriétaires, ben, c'est vrai qu'ils ne font de mal à personne, physiquement, mais n'empêche, il y a là quand même, me semble-t-il, un comportement d'autorité qui fait violence au droit des personnes de disposer des biens qui sont les leurs. Et même si donc on peut condamner l'usage que veulent en faire ses propriétaires, donc peu importe, c'est pas là le débat, donc vis-à-vis des individus concernés, ils sont dépossédés d'un bien, d'un terrain ici, hein, qui est pourtant le leur. Autre exemple que l'on peut donner, si on, et donc de nouveau on va en crescendo, ça devient de plus en plus visiblement violent, si on libère par exemple des animaux destinés à l'abattage ou bien qui sont dans un élevage industriel, hein, ou dans des laboratoires pour des expériences, enfin bon, peu importe les circonstances, donc libérer des animaux, détruire un champ d'OGM, ben, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui est plus spectaculaire, il y a une activité, si on veut, visible, une intrusion, une infraction, hein, on force une porte, enfin que sais-je. C'est déjà peut-être plus évident d'y voir une forme de violence, en tout cas d'infraction sans doute, mais certains diront non, ça reste non violent, parce que évidemment on ne touche personne, on ne fait du mal à personne, etc. etc. Si on monte encore dans les tours et que l'on imagine des personnes qui cassent des vitrines en prenant soin de ne blesser personne, qui éventuellement font du pillage, ben là, on va parler de vandalisme, de violence, de racaille, enfin, etc. Donc on aura tout de suite des jugements, évidemment. Pourtant, il y a des gens qui diront, ben non, ce sont des actes de protestation sociale, et on prend bien garde de ne blesser personne dans l'affaire, donc c'est non violent, on ne s'en prend qu'à des biens matériels. Pourtant, ben là, le côté spectaculaire, évidemment, de ce genre de dégradation, hein, poussera plusieurs personnes, une majorité sans doute, à y voir quand même de la violence sous la forme de délinquance, bien sûr. Si on séquestre un directeur d'entreprise en prenant soin de lui, en lui permettant de dormir, de faire sa toilette, de manger, etc. Mais on le séquestre quand même pendant quelques jours, pendant des négociations. Ben, on ne le touche pas, on ne lui fait pas du mal, mais enfin, on le prive quand même de liberté de mouvement ici. C'est plus spectaculaire que les ronds-points, bien sûr. Ben, certains diront que c'est violent, c'est d'une violence inacceptable. Et pourtant, tout le monde qui aura organisé ce genre de séquestration dira « Ben oui, mais on a pris soin du monsieur, on n'a rien fait de mal, on lui a permis de communiquer avec sa famille éventuellement, je ne sais pas quoi, enfin bref. » Donc, violence, pas violence, ben là, ça devient évidemment plus visible. Et puis, si on va encore plus loin et que l'on parle maintenant d'agression physique à l'encontre de personnes, la police ou que sais-je d'autre, voire de meurtre organisé, ben là, évidemment, on parlera de violence. Quand vous reprenez tous les exemples que je viens de donner, donc dire il n'y a que les meurtres ou le fait d'agresser intentionnellement des personnes qui seraient de la violence, tout le reste c'est de la non-violence, ben, c'est un peu... Enfin, ça semble... Oui, on peut le comprendre, mais ça semble un peu arbitraire comme manière de découper les choses. Et surtout, en cataloguant ces comportements, donc les premiers... en les cataloguant de non-violents, c'est une façon de ne pas voir quand même ce qui me semble être une forme de violence opposée à certains individus, à ceux qui seront contrariés donc par les manifestations, aussi symboliques soient-elles, qui seront organisées. Donc l'idée ici que moi je défendrais, mais c'est un point de vue que je défends, qui me semble argumenté, mais ce n'est pas l'opinion manifestement dominante autour du sujet de la désobéissance civile, c'est qu'en fait le choix que l'on a ne porte pas sur soit je suis non-violent, soit je suis violent. La vraie question que l'on doit se poser, c'est, une fois qu'on rentre dans la logique de la désobéissance civile, c'est jusqu'où je suis prêt à aller dans la violence. Et certains, donc j'imagine une majorité, évidemment, mettront une barre. En tout cas, je ne touche personne, je n'agresse personne, je ne tue personne, évidemment. Mais voilà, n'empêche qu'en attendant, j'assume quand même une forme de violence, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parlera de désobéissance. Hein. Donc une manifestation gentille, organisée en accord avec la police et qui ne déborde pas, ben, c'est pas de la désobéissance, c'est une simple manifestation. On sort de la manifestation pacifique et gentille, qu'on pourrait qualifier de non-violente pour le coup, pour rentrer dans quelque chose qui mérite d'être appelé de la désobéissance, quand tout d'un coup on s'oppose à quelqu'un, et que donc d'une manière ou d'une autre on lui fait violence, bien sûr. En tout cas c'est la thèse que moi j'aurais tendance à suivre ici, hein, et qui par conséquent ben, voilà, nous responsabilise, une fois qu'on se mêle en tout cas d'organiser ou de participer à de la désobéissance civile, c'est ben, voilà, je prends sur moi quand même hein, donc une certaine forme de violence. Maintenant, ceci étant dit, ce qui doit nous intéresser, par conséquent, donc puisque la violence intéresse, est en lien avec la désobéissance civile, quand on prend donc cette lecture, c'est de voir comment dans la philosophie, principalement, comment dans la philosophie, on a pu justifier le recours systématique, volontaire, conscient, donc le recours à la violence, en estimant qu'elle était nécessaire, indispensable pour faire entendre la cause, pour défendre la cause que l'on estime être juste. Alors il me semble que quand on regarde, donc je ne vais pas reprendre depuis la nuit des temps évidemment, on n'a pas le temps ici, mais quand on regarde dans l'histoire récente, donc les deux derniers siècles pour faire simple, il me semble qu'il y a un discours qui a dominé et qui a été mis à toutes les sauces pour défendre, pour justifier le recours à la violence. Et ce discours, c'est un discours qui s'inspire, donc ces discours, parce qu'il y en a une pluralité évidemment, il y a eu plusieurs causes hein, qui ont justifié, enfin ou en tout cas où les acteurs ont justifié la violence qu'ils organisaient. Donc tous ces discours, aussi différents soient-ils, se sont souvent inspirés donc de la thèse hegélienne. Donc c'est Hegel qui est ici une référence incontournable. Peut-être qu'aujourd'hui c'est moins évident, ça semble être un discours qui relève du passé, n'empêche que jusqu'à Sartre, certainement jusqu'à Sartre, on a pu justifier la violence en recourant donc à une rhétorique d'inspiration hegélienne. Pour prendre le cas de Sartre, dans sa célèbre préface au livre de Fanon, qui s'appelle « Les damnés de la terre », C'est vrai qu'il justifie la violence. Donc c'est un livre en fait qui traite de la guerre d'Algérie et qui justifie comment le soulèvement des Algériens contre les occupants français. Et Sartre a donc écrit une préface à ce bouquin, et dans laquelle on aurait pu penser peut-être qu'il allait nuancer, ou pas du tout. En fait, il va même plus loin que Fanon pour justifier le meurtre des envahisseurs, le meurtre des colons. Je vous lis un petit extrait ici, il dit simplement ceci: « Un seul devoir, un seul objectif, chasser le colonialisme par tous les moyens. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un homme opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. » Donc c'est une phrase qu'on a souvent citée de Sartre, parce que d'abord c'est très bien écrit, mais enfin ce qu'il dit est terrible, évidemment. Donc le meurtre est justifié, la violence extrême ici est justifiée quand on est dans un contexte comme celui donc d'une occupation. Ça fait penser aussi à la guerre 40-45, évidemment, donc les résistants qui s'en prennent aux occupants allemands. Hein, donc voilà, c'est du même acabit, bien évidemment. Mais n'empêche que cette petite phrase donc, ne le fait pas paraître du tout. Mais derrière cette petite phrase, en fait, il y a toute une dialectique hégélienne qui est mise à l'œuvre. Alors donc, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de comprendre cette dialectique hégélienne, de voir un peu comment elle va être reprise par certains auteurs, pour comprendre effectivement comment une masse d'individus, des syndicalistes, des activistes, des intellectuels pendant deux siècles ont été persuadés, et peut-être qu'aujourd'hui encore il y en a, ont été persuadés qu'on n'avait pas d'autre moyen que le recours à la violence pour améliorer la condition humaine. Alors pour comprendre Hegel, je ne peux pas tout raconter malheureusement, mais il y a un détour qui vaut la peine quand même, qui est un détour par Kant. Kant, donc Hegel évidemment, donc on est un kantien, il connaît Kant et il discute Kant et il le prolonge, il le dépasse évidemment par son système, mais donc il n'est pas compréhensible, Hegel n'est pas compréhensible si on ne connaît pas un peu Kant. Alors par rapport au point qui nous intéresse en particulier, Kant, dans une idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Kant développe une réflexion qui est assez intéressante en soi, qui est le thème de l'insociable sociabilité des êtres humains. Les êtres humains sont obligés de vivre ensemble, ce sont des êtres sociaux. Nous sommes, on dirait aujourd'hui, on est des êtres intersubjectifs, c'est-à-dire qu'on a besoin évidemment de vivre avec les autres. Donc ça j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ailleurs. Toute la culture de l'autonomie est une vaste blague. Nous sommes fondamentalement des êtres interdépendants, sociaux, mais insociables, sociabilité de l'homme. Si nous sommes des êtres sociables en même temps, le problème c'est que nous le vivons mal. Cette contrainte qui est liée à notre nature est source de conflits, de rivalités, de jalousies, etc. Et ce sont ces oppositions, dit Kant, ce sont ces tensions, ces guerres intestines, ces conflits larvés, ce sont ces difficultés donc de vivre ensemble qui sont le moteur du progrès. Donc je vous lis, et ça c'est bien vu. Donc, alors retenez, donc ça veut dire quoi? Parce que en vous le disant comme ça, on ne voit pas très bien le lien, enfin en tout cas ça ne saute pas aux yeux. Donc ça veut dire quoi? Germe ici l'idée que c'est donc le négatif, donc c'est comme ça qu'on va le dire en philosophie, donc le négatif, c'est-à-dire la violence, le conflit, l'opposition, la souffrance, c'est le négatif qui effectivement permet le progrès. Si effectivement les êtres humains naissaient heureux, eh bien, Kant dit plus ou moins, ils seraient comme des moutons en train de paître, et puisqu'ils sont heureux, que voulez-vous, ils ne voudraient rien changer. Leurs conditions leur suffiraient, ils seraient heureux, béatement heureux, et donc pas de progrès. C'est précisément parce que on n'est pas satisfait de ce qu'on a, que donc il y a souffrance, et ici dans les rapports humains qu'il y a conflit, que du coup on essaye de dépasser cette situation, on essaye de trouver une solution pour le meilleur et pour le pire, mais donc voilà, le progrès procède de ce négatif. Et donc je vous lis la conclusion de ce paragraphe, qui est une conclusion célèbre. Donc Kant dit ceci, il dit Remercions donc la nature pour cette humeur si peu conciliante, pour la vanité rivalisant dans l'envie, pour l'appétit insatiable de possession ou même de domination. Sans cela, toutes les dispositions naturelles excellentes de l'humanité seraient étouffées dans un éternel sommeil. L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. Donc voilà ce que dit Kant, petit texte qu'on aurait pu ne pas relever dans l'histoire, mais qui en fait est lourd de conséquences, et effectivement, Hegel va en tirer toutes les conséquences. Alors, Hegel vient donc après Kant, et donc petit détour ici pour comprendre ce qui nous intéresse, il faut bien remonter un peu dans la philosophie de Hegel, remonter au premier principe. Donc Kant est connu par Hegel, la philosophie de Kant pose toute une série de problèmes, relevés par Jacobi, enfin, par toute une série d'auteurs. Hegel connaît tous ces débats par rapport à Kant, et c'est ce qui l'amène, donc peu importe ici, je n'ai pas l'occasion de le développer, mais c'est ce qui va l'amener donc à concevoir finalement un système incroyable. Il va proposer une philosophie donc systématique, donc un système philosophique, qui prétend, comme bien souvent chez les philosophes d'ailleurs, qui prétend donc tout expliquer. Et ce qui est incroyable, c'est que Hegel va effectivement réussir à proposer un système qui est d'une cohérence incroyable et qui semble effectivement expliquer absolument tout. Alors comment ça fonctionne ce système ? Donc il va partir de ce constat, donc ici une petite explication d'abord. Donc le constat c'est le suivant, c'est que dans notre vie ordinaire, nous pouvons le vérifier, il n'y a de monde pour nous que parce que nous sommes là. Donc c'est parce que j'ouvre les yeux que du coup je peux voir le monde et que le monde existe. C'est parce que j'existe que du coup il y a le monde qui m'entoure pour moi. Si je ne suis pas là, écoutez, le problème est réglé et la question de savoir s'il y a un monde ou pas donc ne se posera même pas. Donc c'est bien parce qu'il y a d'abord moi qui existe que du coup ensuite il y a un monde qui existe réellement pour moi. Donc ça, c'est ça vient de Kant. Enfin voilà. Donc ça, c'est une règle qui semble tellement évidente. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'objet, donc le monde qui nous entoure, l'objet n'a aucune existence en soi. Hein ? Il n'existe que dans la mesure où un sujet l'appréhende, où un sujet le pense, où un sujet l'imagine, où un sujet le touche, le transforme, enfin peu importe. Mais donc c'est toujours dans cette relation sujet à objet qu'un objet existe. Ça c'est la première chose. Et vous pouvez essayer, vous pouvez vous dire, ben non, le monde existe, même si je ne suis pas là, le monde existe. Ben si vous n'êtes pas là, comment le savez-vous ? C'est parce que vous êtes là que vous imaginez votre absence et que vous imaginez qu'en attendant le monde... Donc c'est bien parce que vous êtes toujours là en train de réfléchir que du coup vous pouvez postuler qu'il y a un monde qui existe sans vous. Votre existence, vous n'arriverez jamais à en faire l'économie, c'est pas possible. Quand on imagine, mais que devient-on quand on est mort ? C'est parce qu'on l'imagine encore en tant qu'on est vivant, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est une impossibilité humaine, et c'est ce que tous les idéalistes allemands ont bien perçu. Donc il n'y a par conséquent d'objet, il n'y a de monde qui nous entoure que parce qu'il y a d'abord un sujet qui existe, vous en particulier, pour vous-même. Donc c'est parce que vous existez comme sujet que du coup, il y a dans votre expérience le monde, bien évidemment. Donc ça c'est ce que Hegel retire de Kant, et partant de ce principe-là, ici je résume un peu, je fais simple et je fais un peu violence à Hegel, mais enfin disons en bref, que quand on doit comprendre l'existence de l'univers, l'existence de tout ce qui existe, eh bien, on ne peut le faire, puisque ce n'est pas moi qui ai créé l'univers, évidemment ce n'est pas vous non plus, ce ne sont pas les êtres humains. Il faut partir du principe en métaphysique, il faut partir du principe que s'il y a un univers qui existe en soi, il ne peut exister que par rapport à un sujet qui est premier. Un sujet, quand on est à ce niveau-là de la réflexion, un sujet qui est un sujet absolu, ce n'est pas un être humain évidemment, hein, puisque le monde, l'être humain fait partie du monde, et pour l'être humain, il y a un monde pour lui une fois qu'il existe, mais donc une fois que vous sortez de l'être humain, donc, et que vous êtes au niveau de l'échelle de l'univers, donc c'est au regard d'un sujet absolu, donc on pourrait dire Dieu, si vous voulez, donc il faut qu'il y ait un sujet pour que quelque chose comme un monde, un univers, l'ensemble de la réalité existe. Donc au départ, et voilà le début du système de Hegel, au départ, on ne peut pas faire autrement, dit Hegel quand on fait de la philosophie, que de postuler un sujet absolu. Tout commence par là. S'il n'y a pas de sujet absolu, ben, il n'y a rien du tout. Et même si vous imaginez encore qu'il pourrait quand même y avoir un monde, ben, il n'y aurait personne pour le savoir, et donc ce serait un monde qui existerait de façon tout à fait anonyme, hein, et voilà, enfin, la question ne se poserait pas, évidemment. Donc, un sujet absolu, un Dieu, si vous voulez, un esprit absolu au point de départ. Alors le problème de cet esprit absolu, ça c'est la deuxième chose qu'il faut expliquer, le problème de cet esprit absolu, dit Hegel, c'est que, ben oui, donc on est obligé de le poser, il faut bien qu'il y en ait un au point de départ, puisque tout ce qui existe n'existera que pour lui, que par rapport à lui, comme pour nous dans la vie humaine, hein, ou c'est la même chose. Donc il faut le poser, mais le problème c'est que quand on part d'un sujet absolu qui est seul, hein, puisqu'il doit d'abord exister pour qu'il y ait ensuite quelque chose comme un monde. Donc quand on part d'un sujet absolu, le problème c'est que, ça vous ne pouvez pas ne pas le penser, c'est que c'est un sujet qui ne se connaît pas. Il est là sans doute, mais il ne se connaît pas. Alors pourquoi il ne se connaît pas? Parce qu'on pourrait dire, ben, où est-ce qu'il était à chercher un truc pareil? Ben, il ne se connaît pas parce que là, de nouveau, il y a une règle qui a été tirée de Kant, un principe qui a été repris de Kant, c'est tout simplement le principe suivant, c'est que il n'y a, et c'est un peu dans le prolongement de ce que je vous ai dit, hein, c'est que quand on se connaît soi-même, donc de nouveau repartez de votre expérience à vous, quand je me connais, quand je veux voir à quoi je ressemble, comment je vais faire, bien je vais tout simplement me mettre à distance, c'est-à-dire par exemple si vous voulez voir à quoi vous ressemblez, vous allez vous mettre à distance à travers un miroir et vous allez essayer de vous voir dans le miroir. S'il n'y a pas de miroir, ben, vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Quand vous prenez conscience que vous existez, hein, parce qu'il n'y a pas que le fait de se voir, évidemment, je peux savoir que j'existe, c'est dans l'esprit, c'est dans notre âme, c'est eh bien, se réfléchir. C'est donc accéder à soi indirectement par le biais du langage, et ben, à travers l'histoire que je raconte de ma vie, je peux dire qui je suis, par exemple. Mais donc c'est comme si le langage était le miroir de l'âme, hein, dans lequel l'âme peut se contempler. Et tout comme, vous comprenez déjà l'affaire, hein, c'est tout comme le miroir me met à distance de moi-même et ne me donne qu'un reflet, que je ne suis pas, moi je suis en face de ce reflet. Mais n'empêche que c'est comme ça que je peux savoir à quoi je ressemble. Eh bien, avoir conscience de soi à travers le langage, c'est identiquement se projeter sur un miroir qui me déforme, sans doute, qui me met à distance de moi-même. Je ne suis pas l'histoire que je raconte à proprement parler, même si l'histoire que je raconte est exacte. Moi, je suis celui qui raconte l'histoire, évidemment. Enfin bon, toujours est-il que, retenez, Kant nous a permis, enfin a permis à Hegel en tout cas de comprendre cela, et on ne voit pas comment on peut en sortir à l'époque de Hegel. C'est pour qu'il y ait connaissance, il faut forcément qu'il y ait comme une mise à distance. Donc, si je traduis, il faut qu'il y ait comme une espèce d'objectivation de soi, dans un miroir, dans un reflet, ou dans le langage, ou dans n'importe quoi d'autre qui sert à se contempler d'une façon ou d'une autre, à se saisir sous la forme donc, d'un objet. Donc, pour l'instant, pour revenir à notre affaire, le sujet absolu que pose Hegel, il faut bien qu'il y ait un sujet absolu, c'est pas possible autrement, il n'y a pas d'objet sans un sujet. Le sujet absolu, donc cette espèce de Dieu, si on veut, cet esprit absolu, il faut sans doute le poser au point de départ pour comprendre pourquoi il y a un univers, mais en même temps, alors, s'il est d'abord seul, avant d'avoir un univers en vis-à-vis, il faut bien reconnaître qu'il ne doit pas se connaître, qu'il ne peut pas se connaître, puisqu'il n'y a pas encore de miroir, il n'y a pas encore de langage, il n'y a pas encore cette mise à distance possible pour lui. Pour le moment, il est tout seul, sans rien, pour se réfléchir. Et le fait que l'esprit soit un esprit absolu mais ne se connaisse pas signifie donc que c'est un esprit qui est peut-être absolu, il est là depuis toujours, causa sui si vous voulez, mais en attendant il est marqué de l'intérieur par une limite. La limite, c'est donc qu'il ne se connaît pas. Et cette limite, eh bien, amène tout naturellement le désir de dépasser cette limite, c'est-à-dire le désir de se connaître. Donc, si vous devez penser l'origine de tout ce qui existe, vous partirez toujours d'un esprit absolu et qui a au moins cette limite, malgré qu'il soit cause de soi, cette limite qu'il ne peut pas se connaître, étant donné que la connaissance est toujours une connaissance objectivante, et que donc la connaissance de soi est aussi, par conséquent, une connaissance objectivante. Et du coup, voilà pourquoi ce Dieu, cet esprit absolu, va se mettre en mouvement, il est un désir de se connaître, il va se mettre en mouvement pour essayer de trouver un truc, un miroir, quoi, si vous voulez, pour essayer de voir à quoi il ressemble. Il y a le désir de combler ce vide, de dépasser cette limite intérieure. Et l'histoire du monde, ce n'est rien d'autre que cela. L'esprit absolu va se déployer sous la forme, va se projeter lui-même sous la forme d'une histoire objective du monde, l'univers avec l'homme, évidemment, et tout ce qui existe. Mais l'homme est le centre, finalement, de l'entreprise. Donc, l'esprit absolu va essayer de se projeter sous la forme d'une histoire du monde, et en se projetant ainsi sous la forme d'une histoire objective du monde, il n'y a rien à faire, il s'aliène, il s'oublie et il s'aliène dans quelque chose qui n'est pas lui. Souvenez-vous de ce que j'ai dit avec le miroir, qui est une comparaison pour essayer de comprendre la chose, c'est que je peux bien me mettre à distance dans un miroir parfait qui réfléchit parfaitement ce que je suis, n'empêche que je n'ai qu'un reflet. Je ne suis pas cet être à distance, évidemment. Et si je me confondais avec cet être à distance que je vois là en face de moi, ben je serais devenu fou, je serais aliéné, effectivement. Hein, je me projeterais au-dehors de moi. Et voilà. Eh bien, si vous voulez, donc, première négation de ce mouvement de l'esprit absolu, c'est que l'esprit absolu va s'oublier, va se nier, ça ne va pas s'oublier, puisqu'il ne se connaît pas, il ne sait pas oublier grand-chose, évidemment, mais il va en tout cas donc se nier lui-même comme sujet pour se rendre visible sous une forme qui n'est pas lui, qui est une forme objective, une forme donc là en face de lui. Et ça, c'est toute l'histoire donc de l'univers. Donc première négation nécessaire. Évidemment, donc c'est une négation. L'esprit absolu, plus il va se réfléchir dans ce miroir du monde, et donc c'est pas simplement un miroir évidemment, hein, donc c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de la pensée, etc. Plus il va essayer de se comprendre dans cette histoire objective, en se mettant ainsi à distance de lui-même, plus il va comprendre évidemment que c'est lui sans doute, mais que c'est pas lui non plus, évidemment, que c'est bien une négation de lui-même. Lui, il est en face de cette histoire, si je puis dire, il est celui qui produit cette histoire. Et par conséquent, Hegel va dire, il y a toujours un deuxième mouvement qui va apparaître. Donc le premier, c'est la mise à distance. Le deuxième mouvement, c'est lorsque l'esprit absolu va comprendre que ce qui est là comme en face de lui, cette histoire du monde dans laquelle il se met en scène, eh bien, quand il va comprendre que cela, c'est lui en tant que sujet, eh bien, il va réintégrer en lui toute cette histoire du monde, et là, vous aurez un esprit absolu qui se connaîtra parfaitement. Donc le risque, c'est que dans l'histoire du monde, il s'oublie, il se perde, hein, et il soit pris par le jeu de l'histoire du monde, et on pourrait dire, ben voilà, ça c'est le monde, et c'est pas moi, c'est le monde. Et évidemment, donc deuxième moment, c'est quand, ben non, si cette histoire qui n'est pas moi, soi-disant, ben si c'est moi, évidemment que c'est moi, et donc je vais l'intégrer donc dans ma vie. Et c'est comme ça que l'esprit absolu va se connaître. Eh bien, ces moments que l'on vient de distinguer, donc cette histoire que je viens de vous raconter, c'est une histoire qui va porter un nom, on va appeler ça donc la dialectique. L'histoire du monde est une histoire qui obéit au rythme de la vie de l'esprit absolu, c'est-à-dire est le déploiement de la vie de l'esprit absolu, et ce déploiement de la vie de l'esprit absolu pour se connaître, c'est un déploiement qui se fait en trois temps, manifestement. Premier temps, et c'est là la dialectique, ce qu'on appelle la dialectique. Donc, premier temps, c'est ce qu'on appelle la thèse. Et la thèse, c'est le moment où on part d'un esprit absolu qui est marqué par une limite, il ne se connaît pas. Il est entièrement subjectif, enfermé en lui-même, causa sui sans doute, mais sans connaissance à proprement parler. Cet esprit va ensuite s'objectiver, donc se mettre à distance dans une histoire du monde, qui est son histoire à lui en réalité, mais il ne le sait pas nécessairement d'emblée. Donc il va s'objectiver dans une histoire du monde, il va devenir objet, histoire objective du monde. Et ce deuxième moment, donc, c'est ce qu'on appelle l'antithèse. C'est, donc autant la thèse, elle est subjective, c'est l'esprit absolu en lui-même, autant ici, on est dans l'histoire objective du monde, donc c'est le contraire, c'est à travers une distance, une négation de soi par conséquent, donc c'est l'antithèse. Et puis ensuite, quand l'esprit absolu va prendre conscience que toute cette histoire, c'est lui, eh bien, c'est ce que l'on va appeler la synthèse. Donc le moment de la réconciliation, c'est le moment de la fin de l'histoire par conséquent. Donc voilà la dialectique. Alors retenez, donc c'est un détour que l'on fait ici évidemment, et je m'en excuse, mais ça permet de comprendre parce que ça n'a pas de lien apparent, et pourtant ça a un lien avec notre sujet. Retenez par conséquent que la marche de l'histoire, selon Hegel, c'est quoi ? La marche de l'histoire, c'est deux négations. Première négation de la thèse à l'antithèse, l'antithèse nie la thèse, et une fois qu'on prend conscience que l'antithèse est une négation, une aliénation, eh bien il va y avoir la synthèse, c'est-à-dire la négation de la négation. On va essayer de dépasser cette projection hors de soi pour la réintégrer dans sa vie. Donc vous avez la marche de l'histoire est caractérisée par quoi ? Et voilà l'évidence qui va s'inscrire dans les esprits du 19e siècle et du 20e siècle, en tout cas va s'inscrire dans beaucoup d'esprits du 19e et du début, première moitié, disons pour faire simple, du 20e siècle, c'est que la marche de l'histoire ne fonctionne, ne progresse que par le travail de la négation. De la négation ou de la négation de la négation. Alors, ça peut paraître abstrait ce que je vous raconte ici, hein, on n'est plus habitué à des visions comme celle-là, évidemment, mais n'empêche que la force de Hegel, ça va être de montrer que tout, absolument tout, obéit à cette dynamique. Et donc le monde que nous avons sous les yeux trahit cette dialectique de l'esprit parce que ce monde est lui-même soumis à la dialectique. Donc il voit dans l'existence du monde tel qu'il est, il retrouve effectivement les traces de ce déploiement de la vie de l'esprit sous la forme de la dialectique. Alors je vous donne quelques exemples. Hein, pour que vous compreniez l'affaire. Donc par exemple, sur le plan de la métaphysique tout d'abord, donc ici c'est peut-être un peu compliqué, mais vous devriez pouvoir comprendre, il me semble. Donc le concept de base, évidemment, c'est que toute chose existe et donc toute chose est. La notion d'être est la thèse. Hein, si évidemment il n'y a pas d'être, il n'y a rien, c'est une évidence. Donc être, ça c'est un concept philosophique en métaphysique qui est fondamental, la notion d'existence, si vous voulez, la notion d'être. Donc elle est le point de départ, sans cette notion, pas de langage, pas de pensée et pas d'existence. Enfin, rien qui existe, évidemment. Toute chose qui existe est une chose qui est. Maintenant, quand on veut comprendre ce qu'est l'être, que partage l'ensemble des choses qui existent, aussi bien réelles, concrètes, objectives que imaginaires. Hein, une idée est aussi, sous la forme d'une idée. Donc quand on veut méditer ce qu'ont fait les métaphysiciens pendant des siècles, mais c'est quoi être ? Pour un être humain, pour une idée, pour un objet, etc. C'est quoi être ? Eh bien, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que quand vous réfléchissez, vous laissez libre cours à votre imagination ici, à votre pensée, c'est que, ben oui, toute chose est, mais l'être, le fait d'être, n'est aucune des choses en particulier qui existent, puisque l'être est ce qui fait que toutes les choses existent. Hein, donc si vous disiez l'être, c'est le soleil, ben oui, mais le soleil est. Donc lui-même présuppose la notion d'être. Donc vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas confondre jamais l'être avec un quelque chose qui existe. Même Dieu, on pourrait dire qu'il est précédé par le fait d'être, puisque si Dieu existe, il est, et donc lui-même, d'un certain point de vue, enfin bon, on pourrait dire que Dieu est l'être, évidemment, hein, comme on le fait en théologie, mais on pourrait même dire là, ben oui, mais Dieu entend, ça c'est Heidegger, hein, l'ontothéologie qu'il développe, donc même Dieu lui-même est dans le fond quelque chose qui est, sous une forme absolue, etc., et qui présuppose lui-même le fait d'être, bien sûr. Enfin bon, tout ça pour dire, peu importe, le débat n'est pas là, mais donc c'est vrai que sans l'être, il n'y a rien, donc on doit toujours partir du principe du pouvoir d'être, qui est la thèse, Mais plus on réfléchit pour essayer de savoir, mais c'est quoi cet être? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est... Enfin, et on cherche désespérément. Et plus vous cherchez, plus vous vous rendez compte que tout ce que vous allez mettre sur la table ben, présuppose chaque fois l'être. Et donc la conclusion à laquelle vous allez arriver, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que, c'est assez étonnant, mais qu'en tout cas, la seule chose qu'on peut dire à propos de l'être, c'est que l'être n'est rien de ce qui est. Donc tout ce qui est présuppose l'être, donc l'être vient avant tout ce qui est, et donc l'être n'est rien de ce qu'il rend possible, si vous voulez, donc il n'est rien de ce qui est. Et voilà que vous glissez par l'exercice intellectuel ici, vous glissez de la thèse à l'antithèse. On voulait comprendre ce qu'était l'être qui est la thèse, et en essayant de réfléchir à ce qu'est l'être, vous êtes naturellement amené par le biais de votre raison à l'antithèse qui est de penser le non-être. L'être n'est rien de ce qui existe. C'est ce par quoi tout existe sans doute, mais qui ne se confond avec rien de ce qui existe. Alors évidemment, on ne peut pas se contenter simplement de cet échec, donc la question qui va se poser, et ça c'est la synthèse, ce qu'on va se demander maintenant, c'est quoi? C'est comment synthétiser ces deux opposés? On voulait penser l'être, on est reconduit au non-être. Comment dépasser cette opposition qui est une opposition stérile, enfin qui, eh bien, synthèse, qu'est-ce qui est à la fois et qui n'est pas? Qu'est-ce qui fait la synthèse de la thèse et de l'antithèse? Eh bien, quand vous réfléchissez un peu, vous vous dites, ben oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait cette synthèse. C'est tout à fait bizarre, c'est étonnant. Et c'est quoi? Ben, c'est le devenir. Le devenir, donc l'histoire, le fait que tout est impermanence, c'est à la fois être, l'instant présent est, et en même temps, il est appelé à n'être plus. Être et non-être se concilient, se réconcilient dans une synthèse, dans la réalité qui existe et qui est qu'effectivement pour nous, êtres humains, dans ce monde, tout, absolument tout, nous y compris, nous sommes en devenir. Donc le devenir, le fait que nous sommes des êtres dans le temps, si vous voulez, donc le fait que nous sommes des êtres en devenir, eh bien nous sommes une synthèse, de ce point de vue-là en tout cas, l'univers lui-même, hein, qui est en devenir aussi bien sûr, donc nous sommes une synthèse de quoi? Du fait d'exister et de ne pas exister à la fois, d'être et de ne pas être à la fois. Thèse, antithèse, réunies dans la synthèse. Maintenant, si vous prenez d'autres exemples qui sont plus concrets, qui sont peut-être plus faciles à percevoir quand on doit expliquer les choses rapidement, comme je le fais ici, vous pouvez prendre par exemple l'expérience de l'art. L'art est une réalité en soi qui existe, donc ça c'est la synthèse. Mais de quoi est composée cette synthèse, qui est un devenir? C'est l'histoire de l'art, hein, donc on n'en finira pas de créer des œuvres d'art, bien évidemment. Hein, vous retrouvez le devenir dont on vient de parler, qui est partout. Mais n'empêche que l'art, comme réalité, telle peinture, telle musique, chose qui existe pour du vrai, est composée d'une thèse et d'une antithèse. C'est une tentative de synthétiser aussi parfaitement que possible une thèse et une antithèse. Et c'est quoi la thèse ici? Ben, c'est l'intuition du beau. Donc souvenez-vous, la thèse, c'est toujours le côté subjectif. Donc l'art, c'est l'expérience du beau, c'est l'intuition du beau qu'a l'artiste. Et cette intuition du beau, effectivement, tente de se dire, de s'exprimer, de s'incarner dans l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un livre, enfin peu importe, ça peut être n'importe quoi, même la musique. Donc elle va tenter de s'incarner en prenant forme dans la matière, que ce soit des sons, la pierre, les couleurs, hein, le langage, enfin peu importe, mais va essayer donc de se dire dans l'œuvre d'art. Et vous comprenez bien, on a bien là les deux aspects de ce qu'est une œuvre d'art, si, et les deux doivent être pensés ensemble, hein, rien que l'intuition du beau, oui, c'est sans doute l'essentiel, mais le beau qui n'est nulle part que dans la tête de l'artiste, ça... c'est pas ça, enfin ça n'est pas complet, enfin on se rend bien compte qu'il manque quelque chose, et de réduire l'œuvre d'art à un objet, ça ne va pas non plus, hein, donc c'est un objet, d'accord, mais qui évoque évidemment l'intuition du beau. Donc l'art lui-même est une réalité, donc une synthèse qui est l'expression, qui est la tentative de réconcilier à la fois l'intuition du beau dans de la matière. Et c'est parce que, évidemment, la réconciliation n'est jamais parfaite que l'art est un devenir, l'art est une histoire, et on essaye toujours de faire quelque chose de plus beau, de plus émouvant, de plus... etc., etc. Prenez la politique. Politique, c'est un devenir, évidemment, et qui essaye de concilier quoi? Donc c'est une synthèse, bien sûr, mais synthèse toujours passagère, elle est en devenir, mais qui essaye de concilier une thèse et une antithèse. La thèse, c'est la liberté humaine, mais qui a besoin de s'organiser dans des lois. Et les lois, qui sont des contraintes, qui sont des limites, ben ce sont évidemment, donc ça relève de l'antithèse, c'est l'opposé de la liberté. La liberté, ce serait on fait n'importe quoi, et la loi, c'est on obéit. Mais la vie politique, c'est quoi? C'est pas l'obéissance, c'est pas la liberté. La politique, c'est la conciliation la plus heureuse possible de ces deux termes, la thèse et l'antithèse. Vous pouvez prendre la religion. Ben, la religion, c'est l'expérience subjective, évidemment, de la piété, de l'extase, du rapport à l'absolu, qui est une expérience éminemment subjective, évidemment, vécue. Hein, pensez à Thérèse d'Avila ou que sais-je, enfin bon, hein, qui ont eu des extases. Donc c'est une expérience évidemment éminemment subjective, mais qui ne se suffit pas, qui a besoin de se dire et de se mettre en scène dans des dogmes, dans des récits, dans des rites, dans des prières, hein, dans des chants, enfin bref, qui a besoin de s'objectiver. Rien que suivre des dogmes sans y croire ou sans y participer subjectivement, ce n'est plus de la religion. Rien que l'intuition, sans se donner une forme concrète pour s'exprimer, ben ce n'est pas de la religion non plus. L'expérience religieuse, c'est les deux à la fois. C'est des rites habités par une intuition. Donc, enfin voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, même l'histoire de la nature, enfin c'est incroyable. Donc tout, absolument tout, va y passer chez Hegel, et il va montrer que donc tout obéit bien à ce processus de la dialectique, thèse, antithèse, synthèse, et que donc cette mécanique de l'histoire, c'est pas une mécanique, mais enfin donc ce mouvement de l'histoire, ce processus inéluctable, c'est un processus qui a besoin, pour avancer, pour se développer, c'est ça surtout que nous devons retenir, a besoin de quoi ? A besoin de la négation. L'antithèse nie la thèse, et la synthèse nie l'opposition thèse-antithèse. Essaye donc de la réconcilier d'une manière ou d'une autre. Donc c'est la négation qui est la force de l'histoire, le moteur de l'histoire. Alors Hegel va mourir, évidemment, et ça va mettre les philosophes dans le plus grand désarroi, en tout cas certains philosophes, parce qu'il y en a qui font autre chose, évidemment, mais tous ceux qui connaissent Hegel vont être terriblement embarrassés. Alors pour quelle raison va-t-il y avoir un embarras ici? Mais parce qu'avec sa dialectique et son système, Hegel a tellement tout pensé, mais tout, absolument tout, à travers sa dialectique, qu'on se demande, mais que va-t-on encore penser, enfin? Quelle idée nouvelle pourrait-on avoir à laquelle Hegel n'aurait pas déjà pensé? Hein, vous pouvez être matérialiste, vous êtes dans l'antithèse, vous êtes spiritualiste, vous êtes dans la thèse, enfin, quoi que vous défendiez comme type de philosophie à propos de n'importe quel sujet, si vous défendez un aspect, Hegel va vous replacer dans une dialectique, et soit il dira vous êtes dans la synthèse, dans la thèse, dans l'antithèse, mais c'est tout à fait logique ce que vous racontez, mais ce n'est que partiel, enfin, et il va toujours vous récupérer. Donc c'est vrai que ça a été terrible, cette pensée qui a même été qualifiée de pensée totalitaire, tellement elle explique tout, elle inclut tout, elle donne une place à tout, enfin voilà, il y a quelque chose qui est d'une puissance inouïe, bien évidemment, et qui peut même faire terriblement peur. Alors, ça c'est une première chose. Donc voilà ce qui va imprégner, donc j'insiste là-dessus, ce qui va imprégner la pensée du 19e et du 20e siècle, des gens qui sont pétris de Hegel, de cette vision, et qui sont persuadés effectivement qu'on ne peut avancer dans l'histoire que par le biais du négatif, de la négation, donc soit de la première négation, thèse, antithèse, soit négation de la négation dans la synthèse. Un successeur de Hegel, qu'il faut quand même citer ici, ce sera qui ? Ce sera Marx, évidemment. Donc Marx est un hegélien de gauche. Hein, vous allez avoir effectivement à la mort de Hegel deux types d'hégélianisme, quand on résume les choses, un hégélianisme de droite qui sera plutôt conservateur, enfin ici dans le sens où ce sont des gens qui vont entretenir la mémoire de Hegel, publier les textes de Hegel, etc., mais donc ne vont rien apporter ou pas apporter grand-chose de nouveau. Et puis vous avez les hégéliens de gauche qui, eux, vont reconnaître qu'il y a une force de frappe dans la pensée de Hegel, qu'il y a une loi dialectique de l'histoire qui semble incontournable, hein, une fois que vous essayez de comprendre les choses, mais hégéliens de gauche, ils vont innover un peu par rapport à Hegel parce qu'ils vont être plutôt matérialistes. Donc autant Hegel part d'un dieu, d'un esprit absolu, du subjectif, autant Marx va redéployer l'histoire du monde, mais à partir d'un point de départ qui sera un point de départ matérialiste. Donc Marx va remettre la philosophie, dira-t-il, sur ses jambes. Hein, Hegel l'avait mise à l'envers. Alors, pour faire simple ici, retrouve-t-on l'hégélianisme de Marx ? Donc je vais ici simplifier les choses, mais en gros, voilà comment il relie l'histoire. En fait, ce qu'il va faire, et c'est du Hegel, hein, il va donc développer une dialectique thèse-antithèse-synthèse, donc ça c'est le credo, mais à l'intérieur de la thèse, il va y distinguer une nouvelle dialectique. Donc la thèse est composée elle-même d'une dialectique thèse-antithèse-synthèse. L'antithèse, pareil, à l'intérieur de l'antithèse, il y a une thèse-antithèse-synthèse, et à l'intérieur de la synthèse, eh bien de nouveau, donc une dialectique. Alors, en gros, donc, comment lui explique-t-il l'histoire du monde ? Donc ce n'est pas du tout un dieu ou un esprit absolu qui ne se connaîtrait pas, enfin ce genre de choses. Non. L'histoire, donc nous sommes dans le premier moment, donc premier moment, donc c'est la thèse à l'intérieur de laquelle on retrouve une dialectique. Alors, à l'intérieur de ce premier temps de l'histoire, qu'a-t-on ? Du côté de la thèse, ben c'est l'être humain évidemment qui est en jeu, mais l'être humain, donc thèse matérialiste, ben, qui est réduit ici, ou qui est ramené à ce qui est quand même essentiel effectivement, donc c'est-à-dire ses besoins. Besoin de manger, besoin de se protéger, besoin de se vêtir, besoin de se reproduire, etc. etc. Enfin bref, un être humain, c'est un être qui est incarné, qui a des besoins très concrets, et c'est quelqu'un, par conséquent, qui cherche à satisfaire ses besoins. Souvenez-vous, on retrouve des choses de Hegel, hein. Donc c'est-à-dire que les besoins ne sont pas d'emblée satisfaits, il y a une limite là derrière, en eux, hein, donc ils sont peut-être là, mais on a faim, quoi. Hein. Et donc, par conséquent, eh bien, on cherche où ? Ben, je ne vais pas me manger moi-même. Donc on cherche évidemment au dehors, et on va chercher au dehors eh bien, ce qui pourrait effectivement satisfaire ce besoin, le besoin de manger, etc. Et donc, la thèse, c'est les besoins humains, ce serait plus juste de dire ça ainsi, ce sont les besoins humains, et qui vont sortir, effectivement, qui vont aller dans le monde pour chercher de quoi se satisfaire. Et donc, l'antithèse, c'est quoi ici ? Dans ce premier temps de l'histoire, c'est la nature. La nature qui, effectivement, donne les matériaux, donne la nourriture en abondance, et permet aux êtres humains de survivre en répondant donc à leurs besoins. Et la synthèse, donc la rencontre de l'être humain avec la nature, nature qui permet effectivement de satisfaire les besoins humains, donc cette rencontre va se synthétiser dans quelque chose qui est un devenir, évidemment, qui est donc toujours une réconciliation, une synthèse mal emmanchée, limitée, mais c'est tout simplement, donc pour Marx, l'artisanat. Les hommes qui déploient effectivement des métiers, des outils, des connaissances pour trouver dans la nature ce qui va leur permettre de vivre le mieux possible. Donc l'artisanat est la synthèse des besoins humains face à la nature. Voilà. Et donc à partir de là, par exemple, vous aurez des débats pour signifier quoi ? Donc ils sont des débats contemporains. Les loisirs ne sont pas, bien évidemment, le propre de l'être humain. L'être humain, fondamentalement, c'est un être laborieux qui doit trouver dans le monde, qui doit travailler le monde pour pouvoir satisfaire ses besoins. Les cultures qui s'appuient, hein, comme en Occident, sur le loisir, sont des cultures dégénérées, pourrait-on dire, hein, qui dénaturent l'être humain. L'être humain vit de sa confrontation au monde, et c'est ce qu'on découvre de plus en plus, évidemment, ou en tout cas c'est ce qu'on redécouvre de plus en plus, hein, où nous sommes interdépendants avec le monde, et donc de fait il y a là quelque chose que nous devons travailler. Enfin bon, peu importe. Donc ça c'est le premier temps de l'histoire de l'être humain, et puis donc l'artisanat, donc ça se résume par l'artisanat. Et puis ce moment de l'artisanat va malheureusement s'aliéner dans deuxième grande catégorie, donc dans une antithèse par conséquent. Et qu'est-ce que l'antithèse ici ? C'est le capitalisme. Alors, quel est donc le capitalisme, c'est la synthèse, donc une synthèse qui n'est jamais figée, hein, donc qui est en devenir, évidemment. Hein, le capitalisme s'est développé sur des siècles. Donc, c'est le capitalisme. Et le capitalisme est une synthèse mal emmanchée entre quoi et quoi ? Donc, dans cette antithèse, dans ce deuxième temps de l'histoire de l'humanité, donc il y a, hein, comme tantôt, donc, souvenez-vous, il y a donc une dialectique qui est à l'œuvre, à l'intérieur. Et donc, la synthèse qu'est le capitalisme présuppose une thèse et une antithèse. La thèse, c'est quoi ? La thèse, ce sont les propriétaires. C'est eux qui ont les moyens de production, qui ont les finances, qui détiennent les outils. Et évidemment, donc, c'est eux qui sont acteurs. Hein, s'ils ne payent pas, s'ils ne construisent pas des industries ou que sais-je, ben, y a rien qui se passe. Et vous avez donc dans l'antithèse, donc les propriétaires et les bourgeois s'opposent à quoi ? Ils trouvent leur répondant dans quoi ? Ben, dans qui plutôt ? Ben, dans les prolétaires, évidemment, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur force de travail, mais qui n'ont aucun moyen, aucun outil à leur disposition, et qui sont donc obligés de vendre leur force de travail. Le capitalisme, c'est quoi ? C'est ce rapport d'exploitation des prolétaires par les propriétaires. En gros, quand on résume à la grosse louche. Donc, c'est cette dialectique-là qui est à l'œuvre ici. Et donc, ça veut dire que ce qui sert de base ici pour comprendre un peu les choses, c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, que j'ai déjà expliqué plus d'une fois, hein, et qui est mise en jeu ici dans le rapport dominant-dominé, hein, bien sûr. Donc, mais les deux sont, vous comprenez bien que les deux sont interdépendants. Donc les prolétaires, évidemment, ont besoin des propriétaires pour pouvoir travailler. Et les propriétaires ont besoin, effectivement, des prolétaires pour faire tourner leurs usines. Hein, donc il y a une interdépendance ici, mais qui est conflictuelle. Ça s'oppose. Et vous comprenez, évidemment, en quoi nous sommes bien dans l'antithèse. Autant dans l'artisanat, c'était la thèse, le même individu dispose des outils pour aller dans la nature chercher de quoi vivre. Donc l'artisanat, c'est l'individu qui est maître de son travail. Autant dans le capitalisme, aliénation, plus aucun des deux, ni le propriétaire ni le prolétaire, ne sont maîtres du travail, puisque le propriétaire a besoin des prolétaires et le prolétaire ont besoin du propriétaire. Donc vous avez des hommes. Donc vous avez un système du travail qui est aliéné et qui produit des hommes aliénés, puisque plus aucun, effectivement, ne maîtrise son destin. Et, dira Marx, donc vous avez là une négation, donc c'est-à-dire une violence qui a été faite à l'artisanat, qui a été détruit au profit de l'industrialisation, pour dire les choses rapidement. Donc une négation, où on dira le capitalisme est effectivement une violence faite aux individus qui vivaient plus ou moins en harmonie, une harmonie difficile, avec le monde. Hein, donc il y a là une première violence qui a été à l'œuvre, qui est la violence donc du capitalisme par l'intermédiaire des propriétaires, de ceux qui avaient le pouvoir, qui avaient les moyens. Et puis ensuite, dira-t-on, hein, synthèse, évidemment qu'il y a toujours la nostalgie d'un monde plus ou moins harmonieux, thèse, hein, où les hommes trouvent dans la nature de quoi vivre, et puis il y a cette aliénation insupportable, eh bien synthèse, ça va être la suppression, le dépassement du capitalisme dans un travail qui redevient en quelque façon harmonieux, où les hommes, propriétaires comme prolétaires, redeviennent acteurs, maîtres de leur destin. Et c'est ce qu'on appellera donc évidemment le communisme. Donc entre, bien sûr, ce que nous avons connu hein, dans notre histoire récente au XXe siècle et ce qu'est le communisme tel que Marx l'a imaginé, il ne faut pas confondre. Hein, donc ce n'est pas la même chose, il ne faut pas réduire le communisme dans la pensée qu'on dit marxienne, donc de Marx, il ne faut pas le réduire à ces traductions dans l'histoire qui sont des traductions souvent malheureuses, bien sûr. Enfin bon, mais toujours est-il que la question ici, c'est de savoir comment on peut tendre vers ce communisme, hein, utopique peut-être, eh bien c'est par la négation évidemment. Alors de deux choses l'une, donc Marx avait envisagé effectivement deux pistes possibles. La première piste possible, c'est que le capitalisme mourra de sa belle mort, comme le capitalisme est basé sur la confiscation des moyens par une minorité, ben comme ils se font la guerre entre eux, ils seront de moins en moins nombreux, et à un moment donné, eh bien, ça deviendra tellement intenable que le capitalisme ne pourra que basculer. Ça, c'était une hypothèse possible. Et puis, ben, ce qui s'est quand même imposé, c'est que c'est par une révolution que l'on pourra mettre un terme au capitalisme, donc un acte révolutionnaire que seuls les prolétaires peuvent mettre en place. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement parce que les prolétaires sont devenus les seuls à se confronter à la réalité du monde en travaillant sur les machines, en travaillant la nature, eux, ils peuvent agir sur le réel, tandis que les propriétaires n'ont que l'argent, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ne brassent que des idées. Ils ont besoin des bras des autres pour pouvoir inscrire leurs idées dans la réalité. Et donc, évidemment, ceux qui ne font que brasser des idées, ben, ils ne font que brasser du vent. Hein, donc, petit compliment pour les philosophes au passage. Et par conséquent, c'est pas eux qui sont les acteurs de l'histoire, bien sûr. Donc, c'est forcément les prolétaires qui devront se retourner contre les propriétaires, hein, qui empêchent une réconciliation. Et c'est en se révoltant contre les propriétaires qu'on mettra un terme au capitalisme et qu'on pourra envisager peut-être un monde enfin réconcilié. Donc voilà en gros l'histoire de l'hégélianisme de gauche qui va être initiée par Marx. Et à partir de là, vous allez avoir toute une série d'auteurs qui ont bien compris le message. Pour sortir des inégalités sociales, il n'y a rien à faire. Il faut passer par un moment de violence. Il faut effectivement faire la révolution, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, on parlera évidemment dans le vocabulaire ici de tous ces auteurs, on parlera de révolution, pas de désobéissance civile, mais n'empêche que, étant donné ce que nous avons dit en introduction, donc ça peut inclure aussi de la désobéissance civile, bien sûr. Alors, parmi les auteurs, on ne saurait pas les citer tous ici parce qu'il y en a évidemment une flopée, et ça va couvrir plus d'un siècle et demi. De gens qui vont s'alimenter de ce côté. Mais en attendant, parmi les auteurs célèbres, vous avez Bakounine, bien sûr, qui est un anarchiste révolutionnaire. Donc ça, c'est le 19e siècle. Vous avez Sorel, qui meurt en 1922 et qui défend un syndicalisme révolutionnaire. Vous avez Vilfredo Pareto, qui lui aussi va défendre va défendre la violence comme nécessaire pour faire progresser l'histoire. Ce sont des gens qui vont influencer Lénine et Mussolini. Enfin voilà. Donc toute une série de penseurs qui vont influencer les syndicalistes, les ouvriers, toute une série d'intellectuels. Enfin voilà, toute une série de personnes qui sont convaincues, mais vraiment convaincues que malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autrement que de recourir à la violence. La violence fait partie de l'histoire, et ce n'est pas simplement des accidents de l'histoire, c'est ce qui est nécessaire, absolument nécessaire, à quoi il faut recourir si on veut sortir de ce qui nous semble injuste pour progresser, pour un monde meilleur.